Et donc, pour la suite de ce cercle Lyon-Trotsky sur l'eau, la gestion capitaliste de l'eau, je redonne la parole à Jean-Michel Fontan.
Le progrès technique, les connaissances scientifiques que l'humanité a acquises permettraient la satisfaction des besoins en eau de l'humanité par la mise en œuvre d'une politique rationnelle d'utilisation de la ressource. L'homme n'est pas impuissant devant la nature. Depuis l'Antiquité, les hommes ont modifié le fonctionnement naturel des cours d'eau pour se protéger des crues et développer l'agriculture, puis pour alimenter les villes en eau. Pour construire des digues, des canaux, des aqueducs, des barrages, des châteaux d'eau, les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui sont sans commune mesure avec ceux du passé. Alors qu'il fallait une quantité considérable de travail humain pour tailler les pierres, cuire les briques et monter les ouvrages, aujourd'hui on dispose d'engins de chantier puissants et de béton. En outre, là où les hommes ne constataient souvent qu'après coup les conséquences parfois néfastes de leurs actions, aujourd'hui, la science permettrait une bien meilleure prise en compte des conséquences environnementales et à long terme de nos réalisations. Si la recherche du profit privé n'était pas le moteur fondamental de l'économie. Citons quelques-unes de ces réalisations dans le domaine des ouvrages hydrauliques, non pour glorifier ceux-ci, car les choix peuvent être discutables et ne sont pas forcément les plus rationnels, mais pour montrer le formidable potentiel de l'ingénierie hydraulique moderne. En Californie, depuis le début du XXe siècle, les ressources locales ne suffisent plus pour alimenter l'agriculture de la Grande Vallée de Californie et la croissance des villes devenues gigantesques comme Los Angeles ou San Francisco. Un système de transfert d'eau à grande échelle fut nécessaire pour permettre à cet État, le plus riche et le plus puissant des États-Unis, de se développer. Entre 1905 et les années 1970, de gigantesques aqueducs, dont l'un de plus de 1000 km, de grands barrages, des kilomètres de canaux ont été construits pour amener l'eau depuis la Sierra Nevada ou le fleuve Colorado. En Chine, les ressources hydriques sont très mal réparties. Au sud, dans le bassin du fleuve bleu, le Yangtze-Kiang, l'eau est abondante et le climat arrosé, alors qu'au nord, où coule le fleuve jaune, le Huanghe, le climat est aride. Le Nord regroupe la moitié de la population du pays, mais ne dispose que de 17% des ressources en eau. Cette dissymétrie s'est aggravée depuis une vingtaine d'années, au point que le fleuve jaune est régulièrement à sec. Depuis 2002, la Chine s'est lancée dans un projet pharaonique afin de détourner une partie des eaux du Sud vers le Nord. Trois gigantesques canaux sont prévus pour un débit de 2200 m3 par seconde, presque sept fois le débit de la Seine à Paris, ce qui en fera le plus grand transfert d'eau du monde. En Libye, la grande rivière artificielle, comme on l'appelait, ouverte en 1996, consiste à pomper les nappes du bassin de Nubie, situé à grande profondeur sous le désert libyen, et de répartir cette eau sur le parcours d'une rivière artificielle constituée d'une canalisation souterraine géante qui traverse le pays de part en part sur plus de 3000 km. Avec un débit de 30 mètres cubes par seconde, ce qui fait quand même 2,5 millions de mètres cubes par jour. En tout cas, avant que l'intervention militaire dirigée par la France en 2011 n'en détruise des sections. Si les institutions internationales ont servi à quelque chose, ce n'est pas à régler les questions liées à l'eau, pas plus qu'au maintien de la paix dans le monde. Elles servent avant tout à organiser et à justifier les guerres impérialistes. Et les conséquences de ces guerres se font particulièrement sentir sur l'accès à l'eau pour les populations. Ainsi, en 1991, pendant la première guerre d'Irak, les bombardements américains des installations électriques ont mis un coup d'arrêt à la distribution d'eau potable aux populations, faute d'énergie. Et la destruction des stations de traitement des eaux a mis à bas tout le système d'assainissement. Avant la guerre, la ville de Bagdad fournissait 450 litres d'eau par jour et par habitant, et ailleurs, c'était environ 200 litres, un niveau occidental donc. Ce chiffre est tombé, après l'offensive, à 10 litres à Bagdad et souvent zéro ailleurs. Dans la décennie qui a suivi, ce chiffre est péniblement remonté à 10% de ce qu'il était avant la guerre, à cause de l'embargo imposé à l'Irak, par exemple sur les produits chlorés ou sur les pompes. Résultat, on estime à 45 000 le nombre d'enfants irakiens qui seraient décédés suite aux maladies liées à l'eau insalubre. Ce ne fut d'ailleurs pas une surprise pour l'état-major de la coalition, puisqu'un document secret d'avant l'offensive prévoyait l'épidémie. Les forces de la coalition anglo-américaine ont remis ça en 2003, lors de la seconde guerre du Golfe. Ainsi, à défaut de trouver les armes de destruction massive, soi-disant cachées par Saddam Hussein, les armées impérialistes en ont engendré une, en laissant des milliers d'enfants irakiens se vider par la diarrhée. Mais le cynisme ne s'arrête pas là. L'administration américaine, installée en 2003 en Irak, confia à une entreprise américaine d'envergure internationale, Bechtel, choisie un mois avant l'offensive, un contrat de 1 milliard de dollars pour la reconstruction des infrastructures principales, dont les réseaux d'eau et d'assainissement. Le contrat stipulait qu'en 12 mois, 45 villes devaient être rééquipées pour l'eau et l'assainissement, ce qui, bien sûr, ne fut pas fait. Outre ce fabuleux contrat, Bechtel espérait ainsi être la mieux placée pour la privatisation imposée dans la distribution d'eau. Mais en 2006, Bechtel dut quitter l'Irak, non parce que le cahier des charges n'avait pas été rempli, mais parce que l'insécurité et l'hostilité croissante des populations lui fit admettre que l'Eldorado imaginé n'était pas au rendez-vous. Bechtel affirme avoir réalisé sa part de contrat à 80% en ce qui concerne l'eau. Manquait juste l'électricité qui permettait de faire marcher en continu les équipements. L'eau est aussi la source elle-même ou une des causes de tensions internationales. Dans ce qu'on appelle les zones arides, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie centrale, la concurrence pour l'accès à l'eau est à l'origine de nombreux conflits, voire de guerres, parfois depuis bien longtemps. Et avec la désertification en cours dans certaines régions, il est probable que la situation se dégrade encore. On pourrait citer le cas de l'Égypte, en conflit pour les eaux du Nil avec les pays situés en amont, notamment l'Éthiopie, à qui elle interdit de construire des barrages, menace militaire à la clé. Un peu plus loin, la Turquie, superpuissance militaire et économique locale, est en concurrence de plus en plus exacerbée avec la Syrie et l'Irak pour le partage des deux grands fleuves régionaux que sont le Tigre et l'Euphrate. La construction des barrages pour servir les projets d'irrigation turcs en Anatolie pourrait priver la Syrie et l'Irak d'une grande partie de leurs ressources en eau. Au Moyen-Orient, dans le conflit entre Israël et ses voisins, Palestine, Jordanie, Liban et Syrie, l'eau est une véritable arme politique. L'eau n'est évidemment qu'un aspect du conflit, mais emblématique. C'est même devenu un instrument d'oppression. Une partie de la politique de guerre et d'annexion d'Israël est directement liée à cette question de l'eau. Toute la région est en stress hydrique permanent et l'eau est une ressource stratégique. Israël occupe ainsi depuis la guerre des Six Jours en 1967 le plateau syrien du Golan, avec ses nombreuses sources d'eau. En 1977, un ministre israélien écrivait à ce sujet, je cite, « Les besoins stratégiques globaux d'Israël nécessitent le contrôle du Golan, car il s'agit de la défense de nos principales sources d'eau. » Fin de citation. Depuis ce temps, la Syrie, menacée d'une grave pénurie à moyenne échéance, n'a pu que pleurer auprès de l'ONU, qui pondra peut-être un jour une résolution appelant à un juste partage des ressources en eau de la région, après avoir produit une résolution condamnant l'annexion du Golan par Israël en 1981, avec l'efficacité que l'on sait. Mais c'est évidemment en Palestine et dans les territoires occupés que la situation est particulièrement révoltante. Les territoires palestiniens comportent 5 sources principales d'eau. En Cisjordanie, le fleuve Jourdain plus 3 nappes phréatiques, dans la bande de Gaza, seulement la nappe phréatique côtière. Dès 1949, l'État hébreu naissant avait commencé à réduire le développement des puits en Cisjordanie, alors sous administration jordanienne. Ensuite, pendant l'occupation de la Cisjordanie par l'armée israélienne à l'issue de la guerre des Six Jours, 140 pompes à eau palestiniennes ont été rapidement détruites et les Palestiniens se sont vus empêcher l'accès au fleuve Jourdain. Les terres et les fermes des Palestiniens situées le long de la rive ouest du fleuve Jourdain ont été confisquées, Leurs habitants ont été empêchés d'y retourner et la région déclarée zone de sécurité militaire. Des ordonnances militaires ont alors mis en place de nombreuses restrictions visant les Palestiniens. Interdiction de forer de nouveaux puits sans autorisation préalable. Expropriation de puits et de sources appartenant à des Palestiniens dits « absents ». Fixation de quotas de prélèvement. De plus, les Palestiniens pouvaient seulement creuser jusqu'à 140 mètres de profondeur contre 800 mètres pour les colons, qui peuvent ainsi exploiter l'épaisseur complète des nappes phréatiques. Depuis cette époque, les choses se sont encore dégradées. Le mur de séparation construit par l'État hébreu depuis 2002 dans les territoires palestiniens, sous prétexte d'arrêter les terroristes, permet également de contrôler l'accès aux eaux souterraines et empêche définitivement les Palestiniens d'accéder au fleuve Jourdain. Le dense réseau de puits mis en place par les Israéliens est si profond et si puissant qu'il génère un assèchement des sources et des puits encore à la disposition des Palestiniens. Depuis 2007, les trois nappes cisjordaniennes sont considérées comme surexploitées, c'est-à-dire qu'elles se vident plus vite qu'elles ne se remplissent. Quant à la nappe phréatique côtière de Gaza, elle est d'ores et déjà infiltrée par l'eau de mer et très polluée par les nitrates. De plus, Palestiniens et colons déversent une grande partie de leurs eaux usées et de leurs déchets sans traitement dans la nature, générant une pollution des eaux souterraines. Au final, pour satisfaire leurs besoins en eau, les Palestiniens disposent uniquement d'une quantité limitée d'eau pure provenant des nappes phréatiques et des sources, à peine 20% des prélèvements effectués sur celles-ci, le reste provenant de la collecte des eaux de pluie grâce à des réservoirs sur les toits des habitations, du recyclage sans traitement des eaux usées et des camions-citernes venant d'Israël. À l'inverse, les Israéliens sont les uniques utilisateurs du fleuve Jourdain et les principaux exploitants des nappes phréatiques cisjordaniennes. Quant au système de distribution d'eau des Palestiniens, il est connecté à celui des colonies israéliennes, dont il dépend par conséquent. Que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, les Palestiniens sont approvisionnés de manière intermittente, à raison de quelques heures seulement par semaine. Pendant les sécheresses, l'opérateur israélien arrête l'approvisionnement palestinien, mais pas celui des colonies. On trouve dans certaines villas de colons israéliens, piscines, jacuzzi, pelouses verdoyantes, quand leurs voisins palestiniens manquent d'eau pour leur maigre culture. À cause de la situation de conflit, la plupart des projets de coopération internationale visant à mettre en place ou à rénover les infrastructures hydrauliques ont été suspendus ou annulés. Résultat, de 25 à 40% de fuites dans les canalisations. En outre, l'intermittence du système de distribution palestinien provoque une dégradation de la qualité de l'eau par infiltration des eaux usées dans les canalisations d'eau potable, alors que les colonies israéliennes, elles, sont approvisionnées de manière continue. En fait, il est probable que l'État hébreu refuse de se retirer de certaines parties des territoires palestiniens, d'abord parce qu'il veut conserver cet accès stratégique à l'eau, malgré le coût économique et politique de l'occupation. Les grandes colonies en Cisjordanie auraient même été implantées scientifiquement de manière à pouvoir contrôler l'exploitation de l'eau. La notion de terre de nos ancêtres n'a donc rien à voir là-dedans. Évidemment, les politiques de l'eau de l'État hébreu contribuent à renforcer le sentiment de spoliation et d'injustice des Palestiniens et ne font qu'exacerber le conflit déjà existant. Au final, le cas israélo-palestinien est un exemple frappant d'une situation où la pénurie d'eau, qui a des causes naturelles et qui justifierait une concertation et une planification à l'échelle régionale, se transforme en arme d'oppression. La gestion désastreuse de cette pénurie donne des arguments aux nationalistes et aux extrémistes religieux des deux bords, tandis que les familles s'épuisent à chercher l'eau qui leur manque. On ne peut pas faire ici un tour du monde de tous les conflits liés à l'eau, tant ils sont nombreux et multiformes. Si le capital impose sa dictature économique à l'ensemble de la société, cela ne va pas sans réaction des populations. Faire payer l'eau apparaît à juste titre comme scandaleux à bien des peuples. Si on les laisse faire, les capitalistes réussiront peut-être un jour à nous faire payer l'air que l'on respire. Je me contenterai d'invoquer quelques mésaventures des multinationales dans le tiers-monde. À Tucumán, en Argentine, la population a organisé un boycott du paiement des factures d'eau, forçant Veolia à déguerpir. À Santa Fe, toujours en Argentine, un référendum populaire a conduit à une renégociation d'un contrat datant de 1995 avec une filiale de Suez, puis au départ de cette multinationale. Ou encore, Vivendi Waters, qui malgré les millions de crédits alloués par le FMI et la Banque mondiale pour reprendre le réseau d'eau des îles Comores, a préféré abandonner le pays, incapable d'obtenir de l'État comorien qu'il impose à ses ressortissants de payer le juste prix demandé. Mais le cas le plus spectaculaire est sans doute celui de Cochabamba en Bolivie en l'an 2000. En 1999, les ressources en eau de cette ville pauvre de 600 000 habitants située au pied de la cordillère des Andes étaient largement insuffisantes et la distribution d'eau reposait sur un réseau vétuste et sous-dimensionné, géré par une structure publique débordée et largement corrompue. La solution envisagée alors est celle du captage des eaux d'un lac de montagne situé à une vingtaine de kilomètres. Un grand chantier que la Banque mondiale accepte de financer sous forme de prêts, à condition, bien sûr, que l'essentiel des travaux, mais aussi de l'exploitation des ressources en eau et en électricité, soit confié au privé et que les usagers payent l'intégralité de la facture d'eau en interdisant toute subvention publique. C'est ce que le Conseil mondial de l'eau allait ériger en dogme, l'eau doit payer l'eau. En clair, pas de subvention, les usagers doivent tout payer. Au terme d'un appel d'offres bidonné, la concession des services d'eau et d'assainissement de la vallée de Cochabamba est attribuée à un consortium, Aguas del Tunari, piloté par le numéro 1 de l'eau américain, Bechtel, celui du marché de reconstruction en Irak après 2003. Le contrat, tenu secret jusqu'à sa signature, s'il prévoit bien une hausse des tarifs de 35% dès la première année pour garantir à l'opérateur un rendement de 15%, chiffre tenu secret bien sûr, reste très flou quant aux objectifs à atteindre en termes d'amélioration du réseau de distribution. Et s'il n'est prévu aucune pénalité en cas d'objectif non atteint, il est par contre prévu une clause de confidentialité qui établit que le public n'aura aucun droit d'accès à l'information. De plus, un décret tombé fort opportunément établit l'exclusivité de la gestion des ressources en eau en faveur du concessionnaire, c'est-à-dire que tous les puits, captages et canaux d'irrigation existant dans la vallée ou dans les quartiers passeront sous contrôle exclusif de l'entreprise, sans contrepartie pour les 15 000 paysans quechua de la vallée, exploitants naturels de cette eau depuis des générations, ni pour les habitants qui avaient souvent eux-mêmes financé et réalisé les travaux. Révoltés par le caractère scandaleux du projet, habitants de la ville de Cochabamba, syndicats de travailleurs et paysans de la vallée forment alors une coordination départementale de défense pour l'eau et la vie et organisent les premières manifestations fin 1999. La révolte explose fin janvier 2000 à la réception des premières factures d'eau, jusqu'à plus 150%, et cela alors que le nouveau service d'alimentation en eau n'était censé être opérationnel que 5 ans plus tard. Le 4 février, la coordination organise la prise symbolique de la ville, et le lendemain, toutes les routes sont coupées, tandis que se déroulent de très violents affrontements avec la police, faisant 22 blessés et 135 arrestations. Mais les autorités doivent reculer et concéder une révision du contrat et la suspension des augmentations de tarifs qui doivent être renégociées avec la participation de la coordination. 2 mois plus tard, le 4 avril, devant l'enlisement des discussions, la coordination quitte la table des négociations et engage ce qui sera nommé la bataille finale de la guerre de l'eau au cri de « Fuera Aguas del Tunari !» Dehors. Les paysans contrôlent et isolent complètement la ville qui se trouve aux mains de la foule en colère. L'état de siège est proclamé. Les affrontements avec la police et l'armée dureront 5 jours et seront particulièrement violents, se soldant par 1 mort et 175 blessés. Des négociations s'engagent, mais le gouvernement fait arrêter les négociateurs de la coordination, ce qui déclenche de graves troubles, cette fois dans toute la Bolivie. Finalement, le 10 avril, le gouvernement bolivien cède et annule le contrat, tandis que 50 000 personnes occupent la place d'armes de la ville. Le 14 avril, le service de l'eau est réattribué à l'ancienne structure publique rénovée et unifiée. L'entreprise Bechtel quitte le pays, de même d'ailleurs que le président dictateur bolivien a dénommé Hugo Banzer, réfugié aux États-Unis. Pour info, cette lutte a servi de trame de fond au très bon film intitulé opportunément « Même la pluie ». Depuis cette guerre et cette victoire, tous les problèmes d'eau n'ont pas été résolus à Cochabamba, loin s'en faut. Des progrès ont eu lieu, des travaux effectués sous le regard d'une fraction de la population ont resté mobilisés, les prix sont restés sages, mais le service reste largement insatisfaisant puisque 55% de la ville n'est toujours pas raccordée au réseau d'eau potable. De grands projets sont en cours ou en prévision, ralentis par la corruption, le népotisme ou les conditions imposées par les institutions financières internationales qui n'ont jamais accepté l'arrêt du processus de privatisation. Car le fond du problème reste bien sûr la pauvreté fondamentale d'un pays comme la Bolivie, le plus pauvre d'Amérique latine. Et l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales, succédant en 2005 à une série de dictateurs au service des capitalistes de Bolivie ou d'ailleurs, n'y a pas changé grand-chose. Ce sont toujours le FMI, la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement qui décident. Pour la petite histoire, Bechtel a réclamé à la ville de Cochabamba 20 millions de dollars de dédommagement avant d'y renoncer en 2006 sous la pression d'une campagne internationale. Bechtel, première compagnie de distribution d'eau américaine, est aussi un mastodonte des BTP à l'échelle mondiale, qui appartient depuis sa fondation en 1898 à une famille américaine richissime, les Bechtel, 71e fortune des États-Unis. En conclusion, la gestion de l'eau est étroitement liée à la façon dont fonctionne l'ensemble de la société. Il est vain d'espérer trouver une solution particulière permettant de soustraire cette ressource vitale à l'avidité des capitalistes. Combattre pour que l'eau devienne vraiment un bien commun pour l'humanité est inséparable du combat pour éradiquer le capitalisme. En se gargarisant avec des expressions comme « l'eau, ressource vitale », les écologistes voudraient faire croire qu'il y a là une lutte spécifique à mener pour arracher ce secteur aux multinationales et le sanctuariser. On enfonce une porte ouverte en disant que l'eau est vitale. Mais le secteur de la santé aussi est vital. L'alimentation, le logement sont aussi vitaux. Le capitalisme ne se laisse pas découper en tranches. C'est un système économique qui impose sa loi à tous les secteurs de la société et qui, pour faire du profit, peut tout à fait devenir écolo-compatible. Veolia a même créé une équipe d'intervention humanitaire et une entreprise de microcrédit dite solidaire en partenariat avec la Grameen Bank, la banque du prix Nobel Mohamed Yunus, spécialisée dans le microcrédit. Cela ne leur coûte pas plus cher qu'une campagne de publicité. Le capitalisme en tant que système économique montre à tous les niveaux son irresponsabilité. Irresponsabilité vis-à-vis des hommes, irresponsabilité vis-à-vis de la planète. Les multinationales de l'eau n'ont par exemple aucun intérêt à agir en amont pour préserver l'eau des pollutions. Plus l'eau est polluée, plus cela justifie les traitements coûteux qui leur rapporteront gros. Si des populations pauvres ne veulent pas payer suffisamment pour enrichir les actionnaires, on leur coupe le robinet, comme on coupe le gaz ou l'électricité. Le problème de l'eau est un problème mondial qui ne trouvera de solution durable que dans le cas d'une société débarrassée de la sordide recherche du profit. Comment croire que le capitalisme est capable de résoudre le problème de l'accès à l'eau potable pour plus d'un milliard d'hommes qui en sont privés quand il laisse s'envoler les prix agricoles à cause d'une spéculation effrénée sur les matières premières ? Comment alimenter en eau potable l'ensemble de l'humanité ? Ce ne sont pas les solutions techniques qui font défaut, même pour les zones arides. Il suffit de voir ce que l'Arabie Saoudite ou Dubaï alimentés par des usines de dessalement d'eau de mer, sont capables de faire dans ce domaine, parfois jusqu'à l'absurde, comme un terrain de golf en plein désert. Pour l'eau, comme pour toutes les ressources, on pille la planète au profit d'une minorité de parasites qui ont accès à tout quand les pauvres n'ont rien. On ne mettra fin à l'irresponsabilité dans la gestion des ressources, au racket permanent des populations, qu'en arrachant l'ensemble des moyens de production des mains de la bourgeoisie mondiale. C'est une condition nécessaire pour créer une organisation rationnelle de l'économie à l'échelle du monde, une organisation rationnelle de la gestion de l'eau et de l'agriculture, comme de toutes les ressources naturelles. Cela signifie remplacer le capitalisme par une société communiste. Merci.